Ahí se tiene. Bien, alors donc c'est la paracha de Bereshit, et comme vous devinez, il y a tellement de sujets que je me demande lequel prendre. Alors cette année, peut-être, si vous avez des questions, si vous avez un sujet à me demander, à me proposer, sinon, on commencera à étudier avec le texte. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je suis persuadé que vous avez plus de questions que j'ai de réponses. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on étudie le chapitre sur la création, ou bien un des sujets sur les premiers récits de l'histoire humaine? Oula, ça va aller. Ouais, j'ai enlevé ça.
Les deux.
Les trois. Je suis à l'époque. C'est vrai, je serais intéressé à entendre vos questions avant de commencer à parler. Enfin, il y a deux possibilités. Soit que j'introduise par une étude, comme d'habitude, soit qu'on étudie un sujet particulier sur la paracha de Bereshit. Vous avez lu déjà ça dans votre vie. Ne vous laissez pas impressionner par le sujet. Ken? Ken?
Il y a un sujet que je trouve très difficile à comprendre, c'est la création de l'homme masculin et féminin, ensuite séparé. J'aimerais bien, si vous pouvez expliquer ce que ça signifie.
C'est un cas particulier de la création elle-même. Bien.
Attends, je vous dis.
Il me semble que c'est un sujet qui vous est familier. Donc, oui.
On a parlé beaucoup, c'était une histoire, ça allait plutôt peut-être de l'astrophysique.
Pas plus fort.
De l'univers en expansion. Et est-ce que ce serait une question métaphysique de demander si quand Kadosh Baruch Hu crée l'univers, il lui assigne une limite physique ou il ne lui assigne pas de limite?
C'est une question ou un exposé?
Non, c'est une question. Une question.
Bon, ça fait déjà deux questions. Je ne sais pas si j'arriverai déjà à finir la première. Mais...
Je suis intéressé par la relation de Caïn et Abel, la violence, et après les enchantements de Caïn, qui bat Caïn et tout.
Alors ça, c'est un jeu pour lui-même. Ah, oui. C'est un peu rattaché à la première question de Adam et Chava. Tu vois comment, peut-être. C'est un jeu pour lui-même. Alors c'est un peu trop énorme. Pour un cours comme ça.
Peut-être un sujet d'actualité sur le premier Rachid de la Torah.
Ken.
Il parle d'une confrontation entre les nations et Israël par rapport à l'État d'Israël. Alors est-ce que cet événement s'est déjà produit avec la déclaration de l'indépendance?
Ou est-ce que Rachid est prophète?
Ou alors est-ce que c'est ce qui est-ce que c'est d'autres dont on parle?
C'est permanent. D'après Rachid, c'est d'ailleurs c'est extraordinaire. Il y a un commentaire des sources de Rashi, Chorel, un commentaire universitaire classique en Israël, qui indique qu'il y a vraiment une intuition prophétique dans le fait que Rashi a choisi parmi tous les Midrashim celui-là, parce que c'est le problème de notre temps. Je réponds très brièvement, il y a une confrontation universelle contre Israël sur le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et c'est ce que Rachid explique. Nous sommes en train de vivre cela. Ce qui est grave, bon, vous allez retrouver mes thèmes familiers, c'est pas tellement les ennemis d'Israël. C'est la partie d'Israël qui est alliée des ennemis d'Israël sur ce problème. Et ce qui est grave, parce qu'on l'a entendu deux fois en quelques jours, c'est des grands rabbins d'Israël, pardon, je me suis mal exprimé, des grands rabbins en Israël qui se sont dit avec une impudeur totale alliés des ennemis d'Israël sur ce problème. Je les cite, mais c'est pas la peine. Ça. Non, je parlais arabe. Et c'est indécent. Alors je me suis renseigné, enfin, en partie en tout cas, c'est une pression des communautés orthodoxes américaines qui subventionnent les yeshivot anti-israéliennes en Israël, enfin anti-sionistes en Israël, pour faire pression sur la politique israélienne pour ne pas avoir des problèmes avec l'Amérique. Comme si ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de problème avec Rome. Je ne sais pas si l'ampleur de la question. Ça y est, sur ce sujet, il ne faut pas me tenter. C'est clair. Nous vivons cela.
Est-ce que la déclaration d'indépendance n'aurait pas dû clore le sujet ?
Non. Et Bereshit bara Elohim. Et c'est là que ça commence. Le rachis, c'est sur Bereshit. Excellent. Je crois qu'il y a une question qu'il faudrait une fois étudier au fond, mais je vous avoue que j'ose pas l'aborder. C'est le fait que le peuple juif est un mystère sur le problème suivant. Et il attire sur lui-même les pires catastrophes. Mais nous sommes responsables des catastrophes que nous attirons sur nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez le rapport. Là, il y a un mystère. Comment se fait-il que ce soit les Juifs qui soient responsables, apparemment, des malheurs des Juifs? Et c'est ça que Rashi épingle. Il y a un seul peuple au monde qui n'a pas la fierté de son identité, c'est les Juifs. Et on n'a qu'à lire les journaux, y compris israéliens. C'est un style suicidaire permanent. C'est clair. Alors ça, c'est un sujet pour lui-même. Bon, mais c'est pas le sujet de la parole. Et Ken,
j'avais une question. Comment est-ce qu'on vit parallèlement la création et qu'on arrive à entendre ce que nous disent les savants, que le monde allait nous inonder à la date de 5700
ans? Attendez, c'est un peu relié. Ça, je commencerai par là. Il y a déjà trois questions assez énormes. Alors écoutez, le problème de la datation du temps, du monde, disons de l'univers, est un problème qu'il faut étudier scientifiquement en étudiant les méthodes scientifiques de la datation. Et je dois dire, fermez-la parce que je dois dire que j'ai étudié cela parce que j'ai été confronté à ces problèmes quand j'ai fait mes études universitaires. C'est une science pour elle-même. Alors, je dirais d'abord un premier principe. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques parmi vous, c'est-à-dire des gens qui ont pratiqué la méthode des sciences. Vous savez que la méthode scientifique, disons expérimentale en tout cas, est basée sur la notion d'une hypothèse explicative des phénomènes. Il y a d'abord une observation des phénomènes, et ensuite le savant formule une hypothèse explicative. Et il cherche des expériences qui confirment ou infirment son hypothèse explicative. Il y a un esprit scientifique qui n'a rien à voir avec l'esprit scientiste. Les littéraires comprennent la différence. L'esprit scientifique est un esprit sceptique qui met en question le fait d'avoir des convictions. Un savant n'a jamais de convictions. Un vrai savant n'a jamais de convictions. Il a de moins en moins de doutes sur son hypothèse explicative. Il y a toute une expérimentation opératoire qui fait que ce que j'appelle un vrai savant, j'ai surtout connu des grands professeurs d'université, mais qui étaient aussi des savants, et qui étaient très modestes sur la certitude scientifique. Il n'y a pas de certitude scientifique. Il y a un doute de moins en moins disons de économique. Je me souviens des expressions de mes maîtres à l'université de Paris. Les hypothèses sont de plus en plus économiques, c'est-à-dire elles expliquent le plus grand nombre de phénomènes observés. mais ce sont toujours des hypothèses. Alors il y a un registre qui est le registre scientifique, qui est une exploration des phénomènes à travers des hypothèses de l'esprit humain, et le génie de l'esprit humain s'est formulé finalement en Occident, par la science occidentale, dans notre civilisation. Il s'agit de la pensée occidentale, je dis bien, telle qu'elle a été préparée déjà vers le XIVe siècle par les grands précurseurs de ce qu'a été finalement le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, qui a formulé la méthode expérimentale avec Claude Bernard comme maître important, mais toute une pléiade de savants européens qui ont mis au point des instruments opératoires d'exploration des phénomènes du monde. Mais le postulat, encore une fois, de la méthode positive, non pas positiviste, c'est comme scientiste, c'est négatif, mais positive de l'exploration des phénomènes, c'est une hypothèse explicative. Alors lorsque l'hypothèse est confirmée par l'expérience, elle est de plus en plus évidente. Elle n'est jamais dite vraie par un vrai savant. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Par hasard, c'est mon métier d'avoir étudié ces choses-là. J'ai étudié la logique scientifique en philosophie, et je vous garantis que un vrai savant ne dira jamais, c'est vraiment une inconséquence, non, je ne sais plus le français, mais vous comprenez l'hypothèse, et comment on dit ça en français, c'est pas de bon goût d'affirmer, surtout quand on est un profane, en référence à des lectures plus ou moins vulgarisantes, des énormités scientifiques. Il n'y a pas de datation de l'univers en science. Il y a des hypothèses de datation des phénomènes d'après des théories. Ça, c'est clair jusque-là. Hein? Alors, ceci dit, voilà quel est le principe commun de ces théories. On observe actuellement un phénomène. Et on a le postulat suivant. Pour que le résultat d'un phénomène antérieur se passe dans la quantité du phénomène observé, il faudrait tant de temps observable. Voilà un exemple. On a dans une roche des traces de plomb. On a par hypothèse qu'avant le plomb, c'était de l'uranium. On sait qu'il faut tant de temps pour qu'un gramme d'uranium se transforme en plomb. On observe qu'il y a tant de grammes de plomb, on induit par hypothèse qu'il y avait tant de temps d'uranium et qu'il a fallu tant de temps pour que l'uranium se transforme en plomb. C'est une des méthodes, la méthode de datation par l'uranium. Il y en a d'autres. Il y a la méthode de datation par le pollen. On observe dans une roche des traces de pollen de la préhistoire. Or, pour qu'il y ait, d'après la configuration astronomique, de telle datation de préhistoire, tel pollen dans telle roche, il a fallu tant de temps, mais vous voyez quel est le processus inductif. Ça veut dire que si le phénomène s'est produit depuis l'origine, d'après les lois qui en rendent compte maintenant, il faudrait au conditionnel tant de temps. Donc, il y a eu tant de temps. Ça, c'est la science des scientistes. Donc, il y a eu. Alors qu'on parle d'un conditionnel. Est-ce que c'est clair? Mais les savants, pour eux, c'est familier. Il n'y a même pas besoin d'en parler en milieu scientifique. C'est comme ça. Il s'agit de doctrine. Et on s'aperçoit que depuis le milieu du XVIIIe siècle, alors ça change d'échelle. Vous avez des chiffres astronomiques qui vacillent entre 10 millions d'années, 50 millions d'années. Ça change. Pourquoi? Parce que ça dépend des postulats de la méthode scientifique. Alors, ça c'est un registre que j'appellerais inductif. Et Maïmonide a déjà traité de cela. Maïmonide dit très clairement que les lois qui président à la création du monde ne sont pas les lois qui président au développement du monde créé. Ce ne sont pas les mêmes lois. Il faudrait le postulat que, au moment où ça a été créé, c'était soumis au même déterminisme légal, législatif, enfin je veux dire des lois déterminées, qu'une fois que c'est créé. Or, la notion de création ne fait pas partie de la pensée scientifique, pour des raisons d'ordre logique. La pensée scientifique n'admet comme concept compatible à la pensée scientifique un concept qui rencontre un phénomène qui se répète. Parce qu'on ne peut faire la loi que d'un phénomène qui se répète. Or, par définition, l'acte de création ne se répète pas, puisqu'il est l'acte originel. Donc, c'est une notion qui ne fait pas partie de la pensée scientifique. Et je dirais plus, la notion de création ne fait pas partie de la pensée rationnelle. C'est un objet de foi. Parce que la notion de création enveloppe une contradiction logique absolue. La notion de création, en clair, signifie « à partir du néant ». Ex nihilo, en français, puisque c'est du latin. Or, les philosophes répondent « ex nihilo nihil ». C'est-à-dire, du rien, il ne vient rien. Alors, on manie une notion que l'on croit, qu'on feint de croire être rationnelle parce qu'elle est habituelle. Or, l'habituel et le rationnel, c'est pas la même logique. C'est une notion vraie, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la raison. J'ai pas fait exprès, mais c'est clair. C'est un objet de foi que nous savons vrai parce que ça nous a été révélé. Et puis, il y a une conviction que ça ne peut pas être autrement. J'expliquerai, j'essaierai. Mais ce n'est pas une notion rationnelle. Un professeur de religion qui enseigne aux enfants que la notion de création est rationnelle ne sait pas à quel point et il commet des aberrations. En hébreu, ça s'appelle des aberrations. Abera. Parce que c'est une faute pédagogique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas rationnel. Ensuite, l'enfant va grandir, va se rendre compte que ce n'est pas du tout rationnel. Et ce qu'il y a de grave, c'est que la morale va partir avec. Vous comprenez, je veux dire. Et en fait, c'est une notion qui enveloppe une contradiction logique. Dieu a créé le monde à partir du néant. Nous y croyons, parce que nous avons des raisons de croire que la Bible, c'est vrai. Et la Bible nous dit ça. Mais ce n'est pas du tout une notion évidente pour la raison, parce que de rien ne vient rien. Est-ce que c'est clair? Et Dieu n'est pas un magicien. Donc il faut bien savoir que la notion de création n'est pas rationnelle. C'est un objet de foi. Et les kabbalistes expliquent comment comprendre de quoi il s'agit. Mais pour ça, il faut apprendre la kabbale. Et ne croyez pas que la kabbale, ça s'apprend n'importe où. En tout cas, pas dans les livres de vulgarisation dits kabbalistes. Et ça, je vous ai expliqué souvent que tous les livres qui s'écrivent sur la kabbale sont faux. Pour deux raisons. Parce qu'un kabbaliste, quand il apprend la kabbala, a un serment d'initiation qui ne doit pas en parler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, de deux choses l'une. Ou bien il a violé son serment, on ne peut pas lui faire confiance. Ou bien il n'a pas fait de serment. Vous avez compris à quel point il faut le chercher. J'ai souvent cité ça. Il y a un seul livre de Kabbalah que je respecte vraiment. Une série de livres. C'est les livres du grand rabbin Safran de Genève, si vous les avez entre les mains. C'est des grands livres. C'est des livres qui parlent de la sagesse juive. Et entre autres, il vous explique que la Kabbale, ça existe. C'est clair ce que j'ai dit? Il y a une phrase comme ça, la Kabbale, c'est vrai. Et puis, sous le nom de Kabbale, qui attire les foules, il vous donne de la sagesse juive normale. C'est clair? Je ne connais pas d'autres. À part les livres du rabbin Safran de Genève. De Genève, pas les autres. Il y en a d'autres. Et il y a aussi les bouddhistes. Ils ont des robes safran, mais ça n'a rien à voir. Et il faut bien comprendre ça. La Torah, c'est sérieux. Si la Torah est révélée, ça veut dire qu'on ne peut pas la comprendre tout seul. Sinon, elle ne sera pas révélée. La Torah ne commence à parler que quand la capacité de l'intelligence humaine est arrivée au bout. Alors là, elle commence à parler. Si je crois que je comprends un verset, c'est que j'ai rien compris. Parce que pourquoi j'ai besoin d'un prophète, si je comprends? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. La Torah ne commence à parler que quand l'esprit humain arrive à sa limite de capacité. Alors là, la Torah parle. C'est pourquoi il faut beaucoup apprendre avant d'apprendre la Torah. Et les rabbins ont dit 40 ans. Et c'est sérieux, c'est un âge mental. Il faut avoir 40 ans d'âge mental pour commencer à se rendre compte que ce que la Torah dit, ça dépasse l'esprit humain. Sinon, j'ai besoin d'un prophète pour apprendre ce que je peux comprendre tout seul. Ça, c'est de la philosophie, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair? Alors, vous avez énormément de gens qui parlent de la Torah avec des airs doctes, ça s'appelle les docteurs. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Des pensées profondes qu'on trouve dans le bric-à-brac de n'importe quelle tradition. Ils nous disent, ça c'est de la Torah. Pourquoi? Ça leur a plu. Alors c'est profond, donc c'est de la Torah. C'est pas vrai? C'est cela. Il y a un verset que vous connaissez peut-être, sinon il faut l'apprendre. Bagoïm en Torah. Chez les goïm, il n'y a pas de Torah. C'est un verset de Echa, des Lamentations. Et la Gemara dit, Haomer, Chochma Bagoïm Ta'amin, Torah Bagoïm Al Ta'amin. Celui qui dit il y a de la sagesse chez les nations, il faut croire. Celui qui dit il y a de la Torah chez les nations, il ne faut pas croire. Parce que ça n'a rien à voir. La Chochma, c'est la Chochma. La Torah, c'est la Torah. Et si Dieu a décidé, et l'humanité entière l'a reconnu, de se révéler à travers les prophètes hébreux pour dire la Torah, c'est que l'humanité par elle-même n'était pas capable de la savoir. Sinon, on aurait eu besoin de théophanie. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais il y avait sûrement une raison. Et je reviens donc à la question. Et en fait, la notion de création est une notion qui ne fait pas partie de la raison humaine. Lorsque le philosophe parle de création, c'est une façon de parler, c'est littéraire. Et créer, ça veut dire il n'y avait rien et subitement il y a. Ou bien c'est ça, ou bien on parle d'autre chose. C'est clair. Or, la Torah a dit un mot qui n'existe qu'en hébreu. J'ai beaucoup étudié cette question dans les versions de la Bible dans toutes les autres langues. Je n'ai trouvé qu'en arabe, la version arabe, un mot qui ressemble et qui veut dire faire naître, comme quand un enfant naît, chlet, en arabe, pour ceux qui connaissent l'arabe. C'est-à-dire, quand un enfant naît, il apparaît à l'être. Bien que son corps vienne d'un corps antérieur, il y a une présence qui apparaît radicalement de rien, d'un rien antérieur, d'un néant antérieur. C'est le seul mot que j'ai trouvé dans une autre langue que l'hébreu qui s'approche de la notion de création en hébreu. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui connaissent le latin, les versions latines disent « fecit », faire. Mais faire, c'est « yesh meyesh ». Il y avait une matière première qu'on a façonnée. Façonner, c'est « yetira », c'est pas « bria ». En grec, ça se dit « poyein ». Poyein, c'est un peu le génie créateur du poète. Ça n'a rien à voir avec ce dont parle la Bible. En hébreu, on dit « paltan », ça vient du grec d'ailleurs, c'est « poète ». Le mot de « bara » en hébreu signifie « faire apparaître à partir de rien ». C'est incompréhensible pour la raison. Par conséquent, poser une question de comparaison et de lien entre les deux registres, le registre biblique qui parle de la création est en deçà. Je ne sais pas comment dire en français, au-delà ou en deçà, hein? Au-delà. Hein? Et après. C'est une pensée déductive. Il y a un point de départ et on compte. Et au point de départ, il y a un point de départ. Et je sais bien que les modernes parlent du bing-bang comme si c'était la même chose. J'en sais rien, c'est la même chose. En tout cas, ça n'a rien à voir. Il y a un point de départ de l'histoire du monde dont parle la Bible. Et puis, le registre des scientifiques est un registre inductif. À partir de l'état du monde maintenant, combien de temps faudrait-il pour rendre compte de l'état des choses maintenant? Avec le postulat que le développement des phénomènes à partir du début est le même que maintenant. Et Maïmonide a déjà indiqué ça, de façon claire, en disant que ce sont deux registres incompatibles. Donc l'idée même de confronter, comparer ce qu'enseigne la Torah, je ne dis pas la Bible, parce que ce que les goïms ont fait de la Bible, ils en ont fait une Bible, ils ont fait du papier Bible. Mais ce que dit la Torah, de la création et à partir de là, et le régime scientifique, dans lequel je suis à l'aise d'ailleurs, personnellement, parce que c'est un registre hypothétique qui tente de rendre compte d'une description phénoménologique des phénomènes. Et chaque école a sa datation hypothétique. C'est clair, ça n'a rien à voir. Alors, dans tous les cas, sachez que pour la tradition hébraïque, la date du calendrier hébraïque, c'est à partir du premier homme, à partir de Adam Harishon, et on a compté depuis Adam Harishon jusqu'au deuxième siècle, au temps de Rav Ada, où on observait le calendrier lunaire solaire, parce qu'il était encore plastique, je ne sais pas comment dire, fluide. Le rapport entre la Lune et le Soleil jusqu'à ce temps-là devant être observé pour pouvoir être perçu. C'est encore le temps hébraïque. Lorsque la dispersion a commencé, le temps astronomique s'est figé. C'est encore un autre sujet que les Juifs connaissent très peu. Alors on a donné le calcul du rapport entre le temps solaire et le temps lunaire, et on ne croyait pas que c'est aussi schématique et approximatif que dit le calendrier du consistoire. C'est très compliqué astronomiquement. Grosso modo, on dit que en 19 ans solaires, il y a
7 années sur 19.
C'est ça. Coïncidence entre les révolutions lunaires et solaires, 7 plus 12 égale 10. Mais c'est d'une complexité dont vous n'avez aucune idée. Les plus grands talmudistes, et je connais un seul, en tout cas, à ma connaissance, il y en a sûrement d'autres ailleurs, c'est la Chachanda à Paris qui connaît ces choses-là. Les grands talmudistes, il faut être vraiment... je ne sais pas comment ils faisaient avec leur cerveau, alors que maintenant on a tous ces ordinateurs et computers, on ne se trouve pas. Pour arriver à comprendre de quoi il s'agit dans les lois talmudiques concernant le calendrier. Bon, ça c'est en passant. Alors, il y a une deuxième raison. C'est que, lorsque nous parlons du temps, et ça c'est Kant, en tout cas dans la culture occidentale, c'est Kant qui l'a mis au point. Et je voudrais vous citer un très grand maître d'Israël qui s'appelait le Rav Shem Tov Geffen, qui est un savant russe, juif, Shem Tov Geffen, qui s'est installé en Israël à la fin du siècle précédent, et qui a beaucoup étudié cela, et qui a formulé cela d'après le vocabulaire philosophique de Kant. J'ai étudié son livre chez le Rav Kook, et c'était vraiment pour moi une découverte de voir qu'il y avait des savants de ghetto russe qui avaient maîtrisé le vocabulaire de Kant pour expliquer ce problème dont je vais parler. Alors il explique que lorsque nous parlons du temps, nous en parlons à travers les catégories de la sensibilité humaine. C'est-à-dire la perception de l'homme est à travers les catégories du temps et de l'espace. Mais ce sont des catégories de la sensibilité. Et depuis Kant, il n'y a aucune philosophie qui ne tient pas compte de cette observation. Or, le Rav Shem Tov Geffen l'a montré dans Rashi, ce problème. Dans Rashi sur le Maaseh Bereshit. Il dit ceci, qui est très simple. Le temps dont nous parlons, c'est le temps humain, c'est-à-dire... les phénomènes sont perçus par la conscience humaine à travers le temps et l'espace. Bon, c'est de la philosophie classique, mais je crois que c'est simple à comprendre. Les phénomènes de la réalité, rapportés à la conscience humaine, sont à travers le temps et l'espace tels que l'homme l'aperçoit, les perçoit. Ça, c'est la catégorie de la sensibilité chez Kant. Si vous avez, par exemple, une mouche, et qui a aussi un système sensoriel, mais la manière dont elle se représente le temps et l'espace n'a rien à voir avec notre manière à nous. Elle a un système sensoriel différent qui fait qu'elle vit dans une catégorisation spatio-temporelle différente de la nôtre. Donc, le temps humain dont nous parlons, c'est le temps de l'homme. Et pour que le temps soit le temps, il faut qu'il y ait un homme. Or, l'homme est entré dans le monde, d'après le récit de la Torah, le sixième jour. À la fin du siècle, au début du siècle, peu importe, c'est un autre problème. Et par conséquent, tant qu'il n'y a pas d'homme pour percevoir la représentation du monde, il n'y a pas de temps humain. C'est clair. Alors c'est ce que le Rav Shem Tov Geffen appelle la différence entre Zman Shebekoach et Zman Shebepoal. Pour qu'il y ait Zman, je veux pas aller, il faut qu'il y ait une conscience humaine qui perçoive. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de temps, je veux pas aller. Donc la Torah, en parlant d'ici, jour du commencement, parle de Zman, je veux pas. Et les savants, qui sont qui ont un vocabulaire hypertrophié, disent qu'un jour, c'est 100 millions d'années, chez Ibn Samlaher. C'est leur problème. Est-ce que c'est... Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors, il y a deux registres radicalement différents. Le registre du récit de la Torah, qu'il faut comprendre avec les catégories de l'hébreu, qui est la langue de la Torah, et d'autre part, le registre de la méthode expérimentale scientifique. Et ceux qui ont eu le privilège d'apprendre et l'un et l'autre savent que ça n'a rien à voir et qu'on ne peut pas interpeller l'un des questions de l'autre. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Alors rassurez-vous, il n'y a aucun problème.
Justement, c'est pas clair.
Il y a un problème avec le premier homme aussi.
Lequel ?
Les fossiles de
l'homme. Et les vrais fils. C'est vrai, je veux dire. J'ai eu aussi le privilège d'étudier au musée de l'homme, au Trocadéro, là-bas, en ethnologie. J'ai mesuré pendant des années, parce que j'en ai fait un de mes doctorats, des squelettes humains et des crânes et des je vous assènerai pas le vocabulaire spécialisé de ces choses. Mais je l'ai fait avec un respect terrible, parce que lorsque je mesurais les os et les cartilages fossiliers de l'homme du Néandertal, je me demandais à quoi c'est correspondé dans la généalogie de la Bible. Avant Noir, après Noir, avant le début, avant le début. Vous comprenez le problème. Eh bien, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que la science de la préhistoire? On observe des traces de fossiles. Et puis, on induit qu'il y a une filiation dynamique qui fait que chaque forme est issue d'une forme précédente en ligne linéaire. Et encore une fois, s'il faut tant de temps pour décrire un phénomène qu'on n'a jamais observé, on n'a jamais observé une forme issue d'une forme précédente. Ce n'est pas de l'observation, c'est de l'hypothèse. Attendez, je vais mettre ça au tableau, vous allez voir ça facilement, et ensuite vous allez prendre au livre, au verset 26, 27, 28 du premier chapitre. Vous allez voir ce qu'il y a tout de suite. Voilà. Imaginez que vous avez en projection des traces de fossiles que vous allez ordonner suivant une ligne hypothétique d'évolution. Et puis vous allez supposer que ça se renvoie au schéma suivant. À partir... Voilà. Je vous donne un exemple, à partir d'une fossile, ça se déboîte dans le temps, ça s'appelle l'évolution, et puis comme vous savez, il y a une grande marloquette entre Darwin et Lamarck sur le principe de l'évolution, est-ce qu'elle est extérieure, les facteurs sont extérieurs, est-ce que les facteurs sont intérieurs, il y a aussi d'autres écoles, et puis alors on projette par hypothèse, une hypothèse explicative que c'est une évolution linéaire qui a projeté ces fossiles. Ça, c'est le schéma classique de l'évolution dite scientifique, de l'évolutionnisme dite scientifique. C'est clair ? Je répète. On a observé des fossiles. On les a rangés d'après une hypothèse qui est que chaque espèce est déboîtée l'une de l'autre et a laissé des traces historiques ou préhistoriques. C'est clair ? Vous avez compris ça ? Alors, quel est le principe de cette doctrine, l'évolutionnisme en général? Et je vous ai cité deux écoles, mais il y en a trois principales. C'est Darwin, Lamarck, il y avait deux Vries avant. Lamarck, Darwin, et un Hollandais dont j'ai oublié le nom. Il y avait Buffon, Lamarck, Darwin et De Vries. Les mutationnismes, en fait. Quel est le principe? C'est que le projet de la vie, c'est l'être animal Et puis, chaque espèce animale a, par mutation, et encore une fois, les grandes écoles évolutionnistes sont marchloquées sur le principe de cette évolution, cette mutation, par mutation, chaque espèce est développée l'une de l'autre, jusqu'à arriver à l'espèce la plus évoluée qui est l'homme, c'est-à-dire que l'homme serait à l'origine un amibe évolué, et qui subitement prend conscience qu'il est un amibe évolué. En train de raisonner sur la destinée des amibes évolués. Ça, c'est le principe de l'évolutionnisme. C'est clair, c'est clair. Ouais, à quel point c'est ridicule. Et si vous savez à quel point nous avons été les disciples de professeurs très sérieux, je me rappelle le dernier cours que j'ai eu au Trocadéro. Le professeur s'appelait, c'est un grand professeur, il s'appelait Rabot. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là. Il arrive en fin de carrière, il était vraiment très âgé. Ça arrive. Et alors, le dernier cours qu'il nous a fait, c'était sur la station debout de l'homme. Nous avons étudié 17 théories fausses sur la station debout. Rien n'explique la station debout de l'homme. Tous les organes de l'homme sont, du corps humain, sont, semble-t-il, constitués de la sorte que notre station naturelle devrait être courbée, accroupie. Et vous connaissez les maladies qu'on appelle les ptoses, c'est-à-dire les descentes d'organes. C'est l'indice qu'effectivement nos organes ne sont pas situés pour la station debout. C'est clair ce que je dis. Et alors, vous savez, Zokhev Kefoufim, okay, c'est clair. Et puis c'est à l'ange, Jacob, vous savez quelque chose. Et alors, il finit par nous dire, je me rappelle très bien de cette scène, et bien voilà, nous sommes des animaux modifiés. Et il était comme ça. Peut-être que pour lui, c'est vrai. Vous savez que les goïms disent qu'ils descendent des animaux. Quand les juifs lisent les midrashim, ils disent que les goïms... Bon, bref, j'ai rien dit. Alors, je reviens au sujet. Alors, c'est clair tout ça. Et, mais je savais que même pour lui, c'était pas vrai. Puisqu'il descend de Adam Harishon. Qu'est-ce qui est arrivé? La science occidentale. Alors, figurez-vous que le principe est commun de toute théorie, c'est donc que le premier être qui apparaît est un être animal, et puis on ne sait pas quel mystère qu'aucun savant n'a jamais expliqué. Cet être animal a engendré un être un peu plus évolué qui finalement arrive à être l'homme. Le principe, en tout cas logique, qu'il y a derrière cette théorie évolutionniste, c'est que du moins sort le plus. Ça n'a jamais été démontré, ni logiquement, ni expérimentalement. Et il faut savoir ça. Est-ce que c'est clair? Du moins sort le plus, on n'a jamais vu ça. Ce qu'on observe, c'est que dans le moins vient du plus. C'est tout à fait autre chose. Ce que dit la Torah, on va le dire dans le texte, et puis si on fait que ça, ça suffira. C'est que le projet, c'était de créer l'homme. Et que les animaux sont des étapes intermédiaires qui ne sont pas arrivées au projet de l'homme. Alors ça s'est arrêté en route. Et la preuve, c'est clair, cette énormité que je vais vous dire. Nous allons lire dans le texte. Le projet, c'est de créer une créature qui soit l'homme. Et puis alors, le monde a essayé de sortir de lui-même. On va lire le texte comme il est écrit. Totse haaret nefesh chaya, que la terre sorte d'elle-même, la personne vivante. N'est arrivé que d'étape en étape à sortir des ébauches, des approximations de l'homme. Et elle n'est jamais arrivée plus loin que le serpent, Nahon, qui était le plus approximatif de l'homme. On oublie que le serpent avait des prérogatives que même l'homme des fois n'a pas. Il parlait. Il y a des hommes qui parlent, enfin ils font semblant. Mais le serpent parlait, Dieu lui parlait. Imaginez un serpent prophète. Si on prend le texte au sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis il y a d'autres caractéristiques. Ensuite, le serpent, c'est sa malédiction, et a perdu ses membres, sa station debout, et il est devenu ce qu'il est devenu. Bon. Vous savez que les anciennes traditions ont gardé ce symbole du serpent comme étant l'ancêtre, et pas forcément le crocodile, et au caïman, mais le serpent, dommage. La grande tradition égyptienne se réclamait de l'ancêtre du pchent, c'est-à-dire le... Et alors les occidentaux, dans leur coquetterie, ont gardé le caducée comme... Oui, où ça plonge, tout ça. Hein. Alors ça veut dire que les traditions humaines ont une mémoire.
Le dragon chinois.
Et, par exemple. Ou le dragon de Saint-Georges. C'était le 22 quoi, ça. Le 22 mai, le 22 février, j'ai oublié. En tout cas, vous voyez, il faut lire le texte comme il est écrit. Ce que le texte dit, c'est que il y a un projet de la création de faire apparaître dans le monde créé la personne vivante qui est l'homme, et que le monde n'a pu réussir que à faire apparaître que l'être vivant naturel le plus évolué, qui était finalement le serpent. Et alors Dieu dit dans le texte, puisque la terre n'y arrive pas, je vais le faire moi-même. On va revoir. Alors, réfléchissez, je sais qu'il faut longtemps pour arriver à se désintoxiquer des pseudo-évidences de l'école française, en fait je vais vous dire, de l'école européenne. Non, c'est mal dit. De l'école laïque et républicaine. Il y a des postulats d'évidence qui font que c'est comme ça qu'il faut penser, et alors que la science réelle conteste ces pseudo-évidences, on continue à penser comme ça, parce que l'instituteur qu'on avait en classe du cours complémentaire ne pouvait pas dire autrement que ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Donc, aucune idée à quel point les vrais savants pensent autrement que cette ambiance d'où surgissent les questions que vous avez posées. Alors, on va prendre les trois versets et vous allez vous-même faire les parallèles du projet du Créateur et de la réalisation le sixième jour en ce qui concerne l'homme. Alors, prenez déjà au verset 26.
Du quel chapitre ?
Du premier chapitre, oui. Attends, je vais vous dire. Prenons le verset 24 du chapitre 1. Vous allez venir à la page.
Page 6.
Pas plus fort.
6 ou 10.
Ben, vous voyez, l'enroulement a passé. Voilà, prenez le verset 24. Vayomer Elohim, c'est le sixième jour. Et Dieu dit. Je vous rappelle très brièvement le plan de chaque jour de la création dans le récit de la Torah. Il y a d'abord la formulation du projet, et Dieu dit c'est le projet. Ensuite il y a le récit de ce qu'il y a eu lieu, et c'est jamais conforme exactement. Il y a un décalage entre le projet de vérité et la réalité, et c'est le secret de la différence entre la tradition juive hébraïque et les autres pensées. Les autres traditions de pensée. Il n'y a que en Israël qu'on a affirmé l'unité dernière du projet de la réalité, de la vérité de la réalité. Partout ailleurs, dans les autres traditions, surtout la grecque, on s'est replié, c'est un renoncement, sur un dualisme entre la vérité et la réalité. La pensée humaine naturelle est dualiste. Il n'y a aucun rapport entre l'idéal et la réalité.